la plus belle fille que j'avais jamais vue en CM2, après le déménagement d'une Oriane aux cheveux blonds, s'appelait Benjamine et elle avait les cheveux noirs. C'était la voisine d'un de mes amis, mais quelque chose nous retenait toujours d'entrer complètement dans son cercle intime et de jouer avec elle. J'ai longtemps pensé que c'était sa beauté qui l'isolait de nous, ou le fait qu'elle était déjà en sixième. La réalité plus décevante tenait au fait qu'elle était juive et que le père de mon ami préférait que nous ne nous mêlions pas trop. Tout ce que je savais des juifs alors, c'était que les membres de ma famille qui étaient allés voir Au revoir les enfants en 1987 avaient beaucoup pleuré. Je savais aussi, mais c'était une information un peu contradictoire, que la marraine de ma mère était juive et qu'elle avait par miracle échappé au destin des enfants du film de Louis Malle. C'était la première fois que j'avais vu ma mère pleurer en apprenant sa mort au téléphone, et c'était en tout cas cohérent avec ce qu'on m'avait raconté des réactions du public d'Au revoir les enfants. Je garde cependant un souvenir merveilleux de son enterrement. C'était à Montmorency. On avait échappé au cimetière et on était resté à manger des cerises délicieuses sous un énorme cerisier. Un cerisier qu'avait peut-être planté mon grand-père, employé ici après-guerre avec sa jeune épouse, ma grand-mère, comme jardinier et cuisinière. Je serais ainsi comme le petit-fils de Céleste ou de Françoise, et là où la mémoire enfantine de Proust le faisait sans cesse retomber dans une vallée beauceronne, je me rattache inversement par cet arbre au pays de Canaan sans, je l'espère, qu'un vague ressentiment de classe m'ait jamais conduit au farouche philosémitisme moixien. La suite est plus convenue et plus sartrienne. Il y a cette fille au collège dont la judéité m'était inconnue jusqu'à ce qu'elle ait perdu sa mère et que j'entende quelqu'un de ma classe opposer à ceux qui compatissaient à son chagrin que pour ces gens-là, ce n'était pas pareil que pour nous. Je crois que c'est encore aujourd'hui la chose la plus incroyablement antisémite que j'ai jamais entendue. Si le père de mon ami, le voisin de Benjamin, laissait bien entendre qu'il y avait entre nous une barrière infranchissable, il ne l'avait jamais formulée de façon aussi distinctement anthropologique. Autant il n'était jamais à court de blagues racistes sur la patineuse noire Soria Ben Ali, autant il manquait ici, étrangement, d'arguments. Cela tenait sans doute au fait que l'antisémitisme moderne, non chrétien, relève, à la différence de ce racisme épidermique, d'une approche un peu savante, presque sémiologique du corps social, et d'une attention extrême accordée au nom ou à des caractéristiques physiques presque indécelables, sinon volontairement cachées. On était prêt, bien sûr, à postuler un universel commun, mais on en avait été, par leur faute, comme empêché de le faire. Si je ne suis pas allé jouer avec la jolie voisine, c'était de sa faute à elle, et de cette manie propre à sa famille ou à son peuple, de se différencier si complaisément. De là, les grands mouvements populaires en France, du moins les appels souvent entendus, comme pendant la crise des Gilets jaunes, à l'unité du peuple, me semblent souvent procéder, au moins depuis l'affaire Dreyfus, d'un rituel de purification, et l'antisémitisme dont il témoigne plus ou moins secrètement d'un inquiétant penchant à la socio-ingénierie, que tout soit posé sur la table, que tous les voiles tombent et nous serons égaux. C'est justement en voyant enfin filmé dans la bande-annonce du prochain Polanski la dégradation du capitaine Dreyfus que j'ai compris que la scène, telle qu'on la voit reproduite dans les livres d'histoire, a quelque chose de l'ordre d'un sacrement égalitaire dément. Dreyfus est bien coupable, mais pas d'un crime quelconque, plutôt d'une atteinte insupportable, car venu du peuple élu à l'universalisme simplifié du peuple roi, son crime, c'est d'avoir l'air sur la gravure, aussi bêtement français qu'il est possible de l'être, et ce sable brisé, c'est le sourire méchant de l'antisémite qui voit la vérité enfin rétablie, la judéité enfin démontrée. Ce que Polanski a choisi de représenter, c'est au contraire quelque chose auquel la littérature concentrationnaire nous a familiarisé, c'est strictement une scène d'appel, comme à Pithiviers ou à Drancy, et non pas tant la dégradation d'un homme que celle d'un peuple qui rêve parfois de sa doubételle en immolant l'un des siens sur l'autel hasardeux de la pureté raciale.